zombies de papa,
oui,
ou de maman en prison.
So-so, solidarité avec les sans-papiers.
RESF, réseau Éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3. Bonjour, comme tous les mercredis à 18h, vous êtes à l'écoute du réseau Éducation sans frontières, le RESF sur fréquence Paris Pluriel, FPP, la radio locale et sans frontières, la voix des sans voix sur 106.3 en FM à Paris et banlieue et en streaming sur rfpp.net jusqu'à retrouver les oreilles loin du front dans une petite heure. Cette émission sera rediffusée lundi matin à 7h30 et très bientôt disponible en replay sur le site du RESF https://réseau-resf. .fr, petit message FPP, hein, comme il nous faut rénover l'antenne et changer une console de studio, eh bien ça coûte cher et nous lançons un appel aux dons, hein, donc merci pour vos dons à votre radio, soit en ligne depuis la page d'accueil du site de la radio, soit par chèque libellé à Association Paris, P-A-R-I-S, pour programme associatif radiophonique d'intérêt social adressé à FPP. Et bien sûr, il y a un onglet pour faire un don, hein, depuis la page d'accueil du site de la radio, rfpp.net. Aujourd'hui, notre émission sera essentiellement consacrée aux Hauts-de-Seine, le 92, département le plus riche de France en forme de noix de cajou, qui enserre l'ouest parisien avec sa défense. Mais comme on dit, pour connaître la hauteur de l'éléphant, il faut passer sous son ventre. Sous le ventre de l'éléphant, il y a entre autres la maltraitance, et la maltraitance en particulier des jeunes exilés, mais il y a aussi de la solidarité. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Abdoulaye Bobo Ba. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
Et nous sommes en compagnie de Armel Gardien qui nous a rejoint par téléphone. Allô Armel ?
Bonjour,
oui, bonjour Armel. Et
bonjour.
Tous les deux, hein, et donc toi Abdoulaye et Armel, vous avez commis un superbe album dessiné qui se situe entre le documentaire et le roman graphique, hein, Les rêves et les combats d'Abdoulaye, édité par RESF, d'après ton récit, Abdoulaye. Et on connaissait les talents d'Armel, entre autres, de militante, d'animatrice et d'organisatrice. Mais en tout cas, moi, je ne connaissais pas tes talents pour le dessin, l'illustration et l'aquarelle. Donc, ce livre raconte, d'une part, la première partie de ton parcours, hein, une enfance plutôt épanouie et tout se passe bien à Conakry, et un drame quand tu as 14 ans qui te force à l'exil. Et donc cette première partie, c'est ton voyage jusqu'à Nanterre.
Exactement.
Et la deuxième partie, c'est ensuite, depuis Nanterre, eh bien, tu es mineur isolé, jeune majeur, tu reçois une OQTF, et là, c'est la solidarité du notamment avec le RESF et avec tous les autres jeunes qui va jouer et qui va te permettre d'être là maintenant. Et même si tu n'es pas devenu médecin comme tu rêvais, comme tu aurais pu et sans doute dû l'être, eh bien, tu travailles, tu as une petite famille. Hein, et donc, dans ce livre, on croise bien sûr d'autres jeunes qui sont en galère, dont on a parlé d'ailleurs pour certains dans cette émission, surtout avec toi Armel, hein, puisque tu es la voix du RESF 92, pas l'unique, mais tu es une des voix principales du RESF 92 dans cette émission. Hein, on y rencontre aussi d'autres militants, des personnages politiques, solidaires ou franchement hostiles. Alors ce que je n'ai pas dit quand on parlait de l'éléphant, c'est que le 92, c'est quand même le département de Pasqua, ancien du SAC, de Sarkozy, qui revendiquait de siphonner les voix du Front National, de Védian, qui est un ancien d'Occident. Alors voilà, première question avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est déjà dans le vif du sujet d'ailleurs, à toi, Aboubacar et à Armel, comment vous est venue l'idée de cet album ?
Alors, je vais peut-être commencer, puis Abdoulaye poursuivra. Bon, Abdoulaye est un des jeunes accompagnés par le collectif RESF MIE 92. Et on a fait sa connaissance lors d'une réunion où affluaient tous les jeunes qui, à ce moment-là, avaient reçu une OQTF, dont Abdoulaye. Et ensuite, nous l'avons accompagné dans sa lutte et dans celle des autres. Et il y a eu un moment où je me suis dit, en discutant avec d'autres personnes du collectif, mais l'histoire d'Abdoulaye, ça coche toutes les cases. Les bonnes, parce que tout n'est pas dramatique non plus, mais aussi les catastrophiques qui sont celles de bien d'autres mineurs et jeunes majeurs. Mmh. Donc, si on faisait une BD pour que les gens comprennent enfin, voilà, mmh. C'est ça le point de départ. Et j'en ai donc très vite parlé à Abdoulaye, et ça c'est un de ses très côtés très positifs, il a tout de suite dit « oui, si ça peut servir, c'est très bien ». Alors, pour faire vite, on s'est rencontrés un certain nombre de fois pour recueillir son récit le plus précisément possible. Mmh. Après, j'ai cherché un illustrateur ou une illustratrice via les réseaux, les listes, et j'ai été mise en relation avec un autre jeune mineur à l'époque, à Nice, un jeune accueilli par le collectif Tous Citoyens de Nice. Ouais. Et qui a commencé à travailler sur une BD. Mmh. Bon, c'est un énorme boulot, il faut le dire. La BD, c'est des planches, hein, c'est des cases, etc. Donc, au bout d'un certain temps, il avait son CAP. Il m'a dit, je ne peux pas continuer. Mais c'est un grand artiste. Il s'appelle lui aussi Abdoulaye. Et j'ai cherché des illustrateurs. Et j'en ai pas trouvé. Et donc, je me suis dit, je me lance un défi. Voilà. C'est comme ça que, avec l'aide d'une copine du RESF qui est prof d'art plastique et qui m'a coachée, j'ai courbé des chines 100 fois sur le métier, j'ai remis mon stylo, mes pinceaux, ouais. Ben on a abouti à ce récit graphique. Alors, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est toujours une histoire de réseau, en fait. Et c'est ça qui est formidable.
Tout est dans le réseau.
Je laisse la parole maintenant à Abdoulaye.
Bonjour tout le monde. Et comme l'a dit Armel, Yves, ce BD, il est venu lors de la rencontre avec le réseau RCF. Et du coup, j'étais dans le besoin. J'avais déjà une OQTF. Donc, j'étais à la quête... des personnes pour pouvoir sortir de cette galère. Et du coup, j'ai entendu parler du réseau et je me suis rendu. Et ce jour-là, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes du réseau. Si je me rappelle bien, il y avait au moins 4 personnes, et, y compris Armel et il y a une autre aussi, Nadine, qui était là.
Il y avait Hervé, il y avait Roger.
Donc, oui. Du coup, ce jour-là, c'était autour de comment faire pour manifester devant la préfecture de Nanterre. Du coup, on en a parlé, on en a discuté longuement, si je me rappelle bien. C'est comme ça, en fait, l'idée de mettre ce BD est venue. Ouais. Et de là, Armel m'a contacté, il m'a dit, elle m'a parlé du projet. Et je l'avais aussi, ce projet, en tête. Parce que pour moi, c'est... parler de mon histoire, c'est pas que mon histoire, c'est l'histoire de toute une génération aujourd'hui qui se retrouve dans la même galère que moi, mmh. À un moment donné. Donc, mettre ces idées par écrit où d'autres personnes pourront se référer, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose de représentatif, et pour moi, ça ne me gêne pas qu'on parle de mon histoire, et je suis partant dès le premier moment où elle m'en a parlé.
Non, mais surtout que ton histoire, elle dit, comme Armel disait, elle coche toutes les cases.
Exactement.
C'est-à-dire qu'elle est parfaitement... D'abord, elle est parfaitement singulière parce que c'est ton histoire. Ouais. Et on retrouve des choses qu'ont vécues ou par où sont passés beaucoup de jeunes. Pourquoi tu es parti de Guinée ? le chemin que tu as pris, les galères quand tu es arrivé, les questions, donc tu reçois une OQTF que tu n'aurais jamais dû recevoir,
effectivement,
qui finit par être cassée, tu finis par trouver du boulot.
Oui.
Et ça, c'est une histoire de, malheureusement, que des milliers de jeunes vivent.
Exactement.
Et donc, est-ce que tu peux commencer à nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à quitter la Guinée et ton voyage ? Oui, même avant que tu quittes la Guinée, parce que tout se passait bien.
En fait, oui, dans ce reçu, j'ai parlé pas mal de la Guinée, parce que tout part de là-bas. Et je vivais très bien avant de prendre la décision de partir. Et cette décision, elle est venue suite à la mort de mon père.
Mmh.
Et du coup, les choses ont basculé de mon côté. Et je ne pouvais plus rester au pays parce que ma vie était déjà menacée. Ça, c'est un.
Mmh.
Et de deux, par rapport à plusieurs circonstances, je ne pouvais plus rester. Il fallait que je quitte. J'ai eu l'aide de certaines personnes parce qu'en ce moment, à 14 ans, je ne connaissais pas trop la vie. Donc, il fallait que certaines personnes me guident, ils m'apportent le soutien. Donc, j'ai eu ce soutien de ces personnes aujourd'hui qui m'ont aidé à partir de la Guinée et à aller vers le Mali où le périple a commencé. C'est du Mali, je suis passé par l'Algérie, de l'Algérie, la Libye, de la Libye en Italie.
Voilà, tu racontes tout ce voyage, il est raconté, donc on va pas rester très longtemps, mais tu as quand même des instants, enfin des moments qui sont particulièrement durs et particulièrement violents dans ce voyage.
Exactement, ouais. En fait, durant ce voyage, durant ce périple, j'ai toujours en mémoire ces moments-là, parce que c'est des moments qu'on ne peut pas oublier comme ça. C'est des moments qui m'ont marqué. Pour moi, j'ai entendu parler de la traite négrière, de la vente d'hommes par un homme. Je l'avais pas vécu. Et c'est durant ce voyage que j'ai vécu cette tragédie. Pour moi, c'est une tragédie. Quand on se fait vendre étant humain par un humain, pour moi, c'est une tragédie. Et je ne suis pas le seul jeune qui a traversé ce moment-là. Tous ces jeunes que vous voyez aujourd'hui qui ont traversé la Méditerranée, presque ont traversé ces moments de périple, de difficulté durant ce trajet.
Voilà, il faut dire que tu as été capturé par la police qui t'a vendu sur un marché. Et...
Effectivement, on a été arrêté en pleine mer par la marine libyenne. Et du coup, après, au beau matin, on a été comme une marchandise, en fait, sur une place publique ou la place du marché, à être vendue comme de la marchandise qu'on achetait.
Mmh.
Et tu vois, c'est des moments que je ne pourrai jamais oublier. Et ces moments aussi, non seulement c'est des moments douloureux, mais aussi qui ont forgé quelque chose en moi, pour dire vrai.
Voilà. Et donc, tu réussis à sortir de cette situation. Alors, tu expliques ça.
En fait, toute ma vie, du départ en Guinée jusqu'à là où je suis, j'ai été toujours aidé. Et cette aide-là, ces aides que j'ai reçues, je sais que ce n'est pas des aides vaines, en fait.
Mm-hmm.
De la Guinée, pour quitter la Guinée, j'ai été aidé. Pour traverser de la Libye en Italie, j'ai été aidé. Une aide que je n'attendais pas du tout. Parce que quand une personne t'achète et que cette personne même t'aide à quitter ce pays, c'est quelque chose que tu t'attends pas.
Absolument. C'est...
Donc, voilà, en fait, en quelque sorte, c'est ça. Cette personne qui m'a acheté sur cette plage m'a aussi aidé à quitter le pays, à quitter la Libye pour rentrer en Italie.
Voilà, et tu racontes aussi des histoires d'amitié avec des gens avec qui tu as quitté la Guinée et voyagé depuis le Mali, sur l'Algérie, sur le...
Comme dans le reçu, c'est écrit, en fait, sur ce trajet, sur ce périple, comme je le dis tout le temps, on se fait des amis, qu'on le veuille ou pas,
mm-hmm.
On ne peut pas faire la traversée seul, en solo. Non. On se fait des amis, certains, on les garde durant toute une vie. Mm-hmm. Certains, c'est juste pour le trajet.
Ouais.
Une fois que chacun arrive à destination, chacun cherche son chemin. Donc, j'ai noué pas mal de relations avec certaines personnes. Jusqu'à présent, j'ai noué ces relations avec ces personnes.
Voilà, et si on veut en savoir plus, il faut quand même lire ce livre. On dira tout à l'heure comment se le procurer. Hein. Il s'appelle Abdoulaye et... Non, pardon, Les rêves et les combats d'Abdoulaye, récit d'Abdoulaye Bobo Bah. Donc, tu finis par traverser la Méditerranée. Tu peux nous dire un petit mot rapidement sur la traversée ?
Quand j'ai pris ce voyage, quand j'ai entrepris ce voyage, je ne savais pas. Et personne ne se rend compte du danger qui se trouve sur ce voyage. C'est quand on était sur le Zodiac. Non, même pas sur le Zodiac. C'est quand la marine, je me rappelle, le bateau qui nous avait secouru, c'était un bateau irlandais.
Mm-hmm.
C'est un bateau irlandais, parce que c'est des moments que je ne peux pas oublier. Et c'est quand j'étais sur ce bateau qui était quasiment en fer.
Mm-hmm.
Et qui se faisait secouer par la mer Méditerranéenne, mm-hmm. que je me suis rendu compte vraiment du danger. En fait, c'est un voyage où tu te dis, ouais, tu sais bien que tu as 90% de sang, t'as 90% de mourir et 10%, même pas 10%, 5% de chance de réussir.
Ouais.
Mais tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends vraiment pas compte. Et moi, c'est quand j'étais sur ce bateau, qui est à 80, bah, disons, entièrement fait de fer, mm-hmm. quelque chose qui est solide. Et moi, j'étais dans un zodiac en plastique.
Mm-hmm.
C'est là où la peur m'a pris vraiment. Et je me rappelle bien que je suis tombé malade. Je suis arrivé en Italie malade.
Ouais. Et tu racontes ça aussi, tu es hospitalisé.
Hospitalisé durant presque un mois en Italie.
Ouais.
Par rapport aux séquelles de la Libye, c'est comme ça que je vais le dire. Parce que vous savez aujourd'hui, par rapport à beaucoup de reçus que vous avez entendus, que vous avez vus à travers les médias, une fois en Libye, ce n'est pas évident pour ces jeunes qui viennent pour la traversée. Non seulement ils sont recherchés comme de la proie, et aussi au niveau conditions humaines, bah, la nourriture, c'est pas ça.
Mmh.
Et à travers tout ce qu'on a mangé, les séquelles, j'ai commencé à ressentir les séquelles. Heureusement pour moi, j'étais déjà en Italie et j'ai été hospitalisé à peu près presque un mois. Tout ça, c'est écrit dans ce récit.
Voilà. Et donc, on va peut-être passer rapidement sur ta traversée, sur la façon dont tu as quitté l'Italie. Ça a été compliqué, donc tu as pris un car pour aller jusqu'à la frontière. Tu as essayé plusieurs tentatives de passer la frontière. La dernière tentative où tu as réussi, c'était aussi une tentative extrêmement dangereuse.
Ouais, en fait, le périple ne s'est pas terminé qu'en Italie. Il a continué parce que l'objectif, c'était pas de rester en Italie. Vu que j'avais étudié le français, mon père, il m'avait mis à l'école. Et chez moi, en Guinée, on étudie le français. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller directement en France au lieu de rester en Italie. J'ai nourri l'idée-là avec un autre ami et avec qui j'ai pris. J'ai dit, on a décidé de prendre le chemin de l'exil aussi, parce que c'est ça. On est passé par Ventimiglia.
Mm-hmm.
Et dans un premier temps, on a fait deux tentatives qui ont échoué. Et la deuxième, on a été ramené par la police frontalière côté française. Heureusement, on était mineurs. Du coup, ils nous ont pas laissé marcher. Ils ont pris le véhicule de la police, ils nous ont ramenés jusqu'à la frontière italienne. Et la troisième tentative, c'était, vu que la première et la deuxième a échoué sur le même endroit, on a décidé de changer. On est rentré par Torino.
Mm-hmm.
Et de Torino, on est rentré à la frontière où je me rappelle bien, le Mont Blanc.
Ouais.
Et c'était vers les environs de 5 heures du matin où on a fait un long trajet de 22 heures à 5 heures du matin sous le tunnel.
C'est le tunnel ferroviaire. Hein.
Sous le tunnel ferroviaire. Et donc, de 22h à 5h du matin, on a traversé la frontière française. Et après, on est venu dans un petit village côté français. Et de là, on a pris un bus. On est venu à la gare de... Et c'est comment la gare Tout le, c'est écrit dans le reçu.
Oui, oui, je l'ai souligné, mais il n'est pas à la page.
Et du coup, de là, on a pris le train pour Lyon.
Ouais.
Et une fois à Lyon, c'est là où j'ai pris un autre train aussi pour Paris. Et je suis arrivé à Nanterre.
Voilà. Et tu es arrivé à Nanterre. C'est pas n'importe comment que tu es arrivé à Nanterre.
Exactement.
C'est pas totalement par hasard.
C'est pas par hasard.
Oui, Abdoulaye, tu voyageais avec un copain,
oui,
qui avait son cousin, je crois, pris en charge par l'ASE du 92.
Exactement.
Et ils vous ont un peu piloté.
Exactement.
Ils vous ont piloté jusqu'à Nanterre, mais après, ils ne pouvaient plus te prendre en charge.
C'est effectivement ça. En fait, on avait déjà une personne qui nous guidait.
Mm-hmm.
Comme l'a dit Armel, il y avait cet ami avec qui j'ai pris la décision de partir, qui avait un cousin ici, parce que c'est de connaissance en connaissance, qui nous a guidés jusqu'à ce qu'on est arrivé à Nanterre. Et de là, comme l'a dit Armel tout à l'heure, et du coup, on ne pouvait plus continuer parce que lui, étant avec l'aide sociale à l'enfance, il ne pouvait pas héberger quelqu'un.
Ben bien sûr.
Donc c'est là où le périple côté français aussi a commencé.
Ouais. Alors je propose, avant qu'on parle maintenant de Nanterre et de la suite, tu m'as conseillé pour cette émission une superbe musique. C'est Yahadou.
Exactement.
Dourabari.
De Dourabari, oui.
Ok, toujours à l'écoute du RSF, fréquence Paris Pluriel, 106.3 en FM à Paris et proche banlieue, et rfpt.net pour nous suivre en streaming et partout dans le monde. Hein. On écoute toujours d'ailleurs Yadou et Yadou de Doura Barry, et on est toujours avec Abdoulaye Boboba et Armel au téléphone. Donc tu arrives à Nanterre, et comment ça se passe quand tu es à Nanterre? Tu arrives à Nanterre, tu as 15 ans.
Ouais, 15 ans.
15 ans, oui. Enfin, tu es parti de Conakry, tu avais 14 ans. Tu as mis combien de temps pour arriver à Nanterre?
On a fait combien de jours? Entre de l'Italie, bon, disons de Ventimiglia.
Non, pas de Ventimiglia, de Conakry à Nanterre. Parce que si moi, à Conakry, j'en ai pour 6h30 ou 7h de vol.
On a fait 3 mois, je crois bien.
Ouais, 3
ou 4 mois.
Donc c'est un voyage, paradoxalement, relativement rapide.
Oui, ça a été rapide.
Parce que beaucoup de gens mettent beaucoup plus de temps.
Oui, ça a été rapide. Non, ça fait plus parce que je suis resté un peu de temps en Italie.
Mm-hmm.
Je suis resté un peu plus de temps en Italie. Et disons, ça fait quoi, 7-8 mois.
Hein. Oui, 7-8 mois de voyage, oui, donc, pour aller de Conakry à Nanterre. Et oui, Armel?
Non, je disais, paradoxalement, c'est interminable. Quand l'objectif, c'est l'Europe, et qu'on n'y arrive pas, et en même temps, tout va très vite, tout s'enchaîne. Il faut chaque jour retrouver le courage de mettre un pied devant l'autre, hein, c'est ça?
Oui, non. Et quand je disais paradoxalement relativement rapide, c'est que beaucoup de gens ont mis un an, voire 2 ans, voire plus, et avec tous les obstacles, se sont retrouvés enfermés, se sont retrouvés beaucoup en Libye. Et...
Alors moi, j'ai envie de dire que la personnalité très forte d'Abdoulaye a certainement aidé dans l'accomplissement de ce parcours. Alors, ceux qui entreprennent ce voyage sont, on le sait, hein, ceux qui ont un objectif, qui ont du courage, qui ont qui ont une bonne santé aussi.
Bon. Mm-hmm.
Mais Abdoulaye, moi, ça m'a frappé parce que c'est une phrase qu'il m'a redit plusieurs fois. C'est « Je ne laisserai pas mes objectifs... » Alors, je ne sais plus, c'est dit dans le livre, dans quel correctement. Je ne laisserai pas la peur dominer mes objectifs. »
Effectivement.
C'est fort, c'est extraordinaire. Et c'est ça, hein, c'est vraiment ce qui l'a poussé d'un lieu à un autre et jusqu'à arriver à Nanterre. Où il a continué à être volontaire, finalement.
Mmh. Voilà. Et donc, à Nanterre, comment ça se passe pour toi? Donc, tu fais partie de ces gens qui ont réussi quand même à faire reconnaître leur minorité, ce qui n'est pas fréquent.
Je me rappelle bien que moi, ma minorité a été reconnue au moment où j'étais hospitalisé à l'hôpital du Morier.
Ouais.
Où ils m'ont demandé, une assistante sociale m'a demandé de faire appel à mon acte de naissance via la Guinée. Mm-hmm. Depuis la Guinée, où je leur ai dit, ce ne serait pas facile, parce que déjà, vu que les personnes que je connaissais plutôt en Guinée, il y a certains aujourd'hui qui ne vivent pas, des personnes qui sont en mesure de me donner ce document le plus vite possible. Ça, c'est, je parle de mon père. Et il faut que je passe par d'autres personnes pour pouvoir mettre main là-dessus. Donc, ça n'a pas été facile. Mais finalement, je l'ai eu.
Mm-hmm.
Ils m'ont passé le téléphone.
Je te coupe la parole, Abdoulaye, pour dire que c'est un des gros problèmes que rencontrent les jeunes quand ils sont dans ta situation. C'est comment faire venir
les papiers, des
documents authentiques quand on n'a plus les personnes proches.
Exactement.
Qui pourraient faciliter ça.
Oui, aujourd'hui, c'est le gros problème, comme l'a dit Armel. Aujourd'hui, on nous demande d'amener des documents originaux pour justifier de notre minorité. Et sauf que quand vous demandez à un mineur de ramener des documents qui ne sont pas à sa possession et qui pourront justifier de sa minorité, Vous voyez un peu le paradoxe. C'est pas une personne majeure, vous demandez ces documents, c'est une personne mineure quand même.
Oui.
Donc, pour qu'il se démerde à ce que ces papiers arrivent ici, c'est tout un voyage. Parce qu'il faut appeler, il faut faire ces papiers, il faut les légaliser, il faut chercher à ce que ces papiers arrivent ici. Et il faut encore les relégaliser au niveau de l'ambassade. Et après, maintenant qu'ils soient vraiment légal devant l'autorité française, c'est pas évident.
Il faut ajouter qu'aujourd'hui, on assiste au tribunal à des audiences dans lesquelles, même avec ces fameux documents de ces états civils doublement légalisés, le juge ou le procureur demande les tests osseux. C'est-à-dire que ça soit complètement... les autorités françaises s'assoient complètement sur la légitimité des États nationaux africains, enfin, de ressortent ces jeunes. Donc, on est vraiment ils sont confrontés à un blocage insupportable.
Voilà, en sachant très bien que les tests osseux, ce sont des tests qui peuvent être extrêmement efficaces pour un usage thérapeutique, qui sont faits pour un usage thérapeutique, absolument pas pour un usage de médecine légale, et que l'âge osseux ne correspond strictement pas à l'âge légal. Et qu'un os peut donner un âge et l'autre os peut donner un autre âge.
Oui, on a des exemples multiples.
Voilà, c'est... Donc tu...
Alors, Abdoulaye, c'est quand même la partie heureuse de son parcours. Il a l'extrême chance d'être pris en charge sans discussion, on va dire, par l'ASE 92.
Effectivement. Voilà. J'ai eu cette chance. Déjà, ils sont venus me chercher directement à l'hôpital, à ma sortie. Et du coup, je suis passé directement au service d'accueil d'urgence à Colombes, où j'ai été mis dans une famille d'accueil. Et j'ai fait 2 mois dans cette famille d'accueil et après j'ai été placé dans un foyer pour jeunes mineurs, toujours sous la direction de l'AZ Nanterre. Je me rappelle bien, Armel, en ce moment, ils n'avaient pas mis le réseau MNA.
Ouais.
Non, il n'y avait pas la cellule MNA.
Oui, il n'y avait pas la cellule MNA en ce moment.
Territoriaux, là, ouais. STT.
Oui, en ce moment, c'est le service, c'est le STT, je ne sais pas combien. Il n'y avait pas le STT6.
Oui, donc c'était, je dirais, moins centralisé, plus humain.
Exactement. Et avec beaucoup d'éducateurs qui étaient là pour vraiment t'accompagner et te guider.
Et c'était il y a combien de temps, ça?
Ça, c'était en 2017.
En 2017, la situation s'est considérablement dégradée depuis.
Exactement. Elle s'est vraiment dégradée.
Voilà. Et donc, tu finis par être scolarisé, tu fais un CAP?
Oui, dans un premier temps, j'ai fait un lycée professionnel.
Ouais. Alors, je dois dire quand même que tu étais dans un lycée d'excellence à Conakry.
Exactement, oui.
Ouais.
Après ce long voyage, Abdoulaye passe les tests du CIO. Et est orienté en seconde. Donc, ça veut dire qu'il n'avait franchement pas perdu ses connaissances. Et quand tu t'es retrouvé au lycée René Auffray, tu as fait travailler, quoi.
Oui, effectivement, c'est ça. En fait, quand j'ai passé le CIO, le TEC CIO, j'avais le niveau pour faire un lycée général. Et ils m'ont dit, par rapport aux circonstances des personnes dans ma situation, ce serait mieux de faire une formation professionnelle. Vu que j'avais mon projet déjà d'être médecin, ils m'ont dit oui, tu peux passer du professionnel vers ce que tu veux. Donc en quelque sorte, de faire un détour. J'ai fait un détour par
là,
le...
Là, c'est quand même une très grande discrimination. Que c'est pas propre à l'ASE 92, la quasi-totalité des services d'aide à l'enfance oblige les mineurs étrangers, les jeunes exilés, à faire des filières professionnelles parce que ils vont pouvoir rentrer en apprentissage plus vite et coûter moins cher. Voilà.
Effectivement, c'est ça, en
fait. Quel que soit leur niveau, compétence, etc., et vœux personnels.
Oui.
C'est une bagarre terrible.
C'est ça, en fait. C'est, en quelque sorte, c'est une politique mise en place par le département pour que le jeune ne soit pas pris en charge jusqu'à ses 21 ans. Et jusqu'à ses 18 ans, une fois ses 18 ans, il est déjà autonome, il a son métier, il a son salaire, donc il peut se prendre en main. Donc, en quelque sorte, c'est de réduire la prise en charge de 21 ans à 18 ans, en quelque sorte. C'est comme ça, moi, je l'ai compris. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aussi. Parce qu'aujourd'hui, pour que tu aies une prise en charge jusqu'à 21 ans, il te faut vraiment être dans des situations où ils n'ont pas le choix.
Être en fac de médecine, par exemple. Voilà. Donc, tu fais ton CAP, un CAP de boulangerie.
J'ai fait d'abord, en seconde, j'ai fait service à la personne.
Ouais.
Et après, là, je voulais partir pour toujours le concours d'infirmier.
Ouais.
J'ai commencé mon premier stage où j'ai subi, c'est ça en fait, une discrimination. Ce passage, je pense bien qu'Ahmed, je te l'avais expliqué, où à mon premier stage, par rapport à une maladie héréditaire que j'ai, bah, ils ne m'ont pas accepté.
Mmh.
Et ça a été vraiment le tournant de mon projet par rapport à la médecine.
Mmh.
Et de là-bas, j'ai fini quand même la seconde. Après, j'ai fait un CAP boulangerie-pâtisserie, malheureusement pour moi, qui n'a pas abouti.
Ne raconte pas tout. On laisse au lecteur...
De lire le récit. Tout est écrit dans le récit.
Différentes péripéties.
Voilà, parce que c'est aussi intéressant de savoir pourquoi tu n'as pas eu ton CAP de boulanger-pâtissier, mais on ne le dira pas. Si vous voulez le savoir, hein, vous lisez le récit d'Abdoulaye.
Je ne sais combien. Et succession de péripéties, bah, c'est tout de suite après que les... L'OQTF,
ouais, en fait, ça a commencé, en fait, les petits pépins ont commencé, les petites galères ont commencé. Et du coup, ben, j'étais en pleine formation, j'étais scolarisé. Quand j'ai reçu mon OQTF, et ça a été un autre tournant de ma vie, cet OQTF. Ça a été vraiment un tournant de ma vie. C'est quand tu t'attends à quelque chose, et à la place, on te donne... autre chose qui n'est nullement pas ce que tu attends, ça te bouleverse. Ouais. Mais, comme l'a dit...
C'est une période où les OQTF tombaient en pluie sur les jeunes devenus majeurs. Et là aussi, bon, quand on voit le détail des motifs de cette OQTF, on s'aperçoit que c'est pas l'OQTF d'Abdoulaye. Celle de quelqu'un d'autre,
effectivement.
Visiblement, et que d'ailleurs, dans le bas de l'arrêté, c'est un autre nom que le sien.
Il y avait non seulement mon nom, mais le nom d'une autre personne.
Mm-hmm.
Et il y avait deux OQTF dans une seule enveloppe.
Ouais.
Et je me rappelle quand...
Donc, l'éducatrice d'Abdoulaye ne doute pas une seconde que le préfet va revenir sur sa décision. C'est une erreur tellement grossière que... tout le monde pense que ça va s'arranger et...
Et ça s'est pas arrangé.
Voilà.
Ça s'est pas arrangé. Ils ont... l'ASE de Nanterre a envoyé un mail, un deuxième mail, mais sans réponse.
Mm-hmm.
Et à un moment donné, j'ai vu la situation, je me suis dit non, il faut pas que je reste les bras croisés. Il faut que je prenne mon destin en main. Et c'est de là est venue la rencontre avec le réseau.
Voilà. Et Armel, donc je te laisse un peu parler du réseau, parce que en plus ça c'était au début des années 2000 à peu près.
2001.
Attends, on n'est pas.
2001.
Il y a eu le confinement au milieu, c'est 2021-2022. Voilà. Alors nous, ce à quoi je tenais beaucoup. En plus de retracer le parcours d'Abdoulaye, c'est c'était de montrer que c'était une histoire partagée, comme tu l'as dit Yves au début, par de nombreux autres jeunes, et que par exemple tous ces épisodes, alors évidemment l'épisode dramatique qui est d'être à la rue et de ne pas être pris en charge par l'ASE, je tiens quand même à dire qu'en ce moment, on a, nous le collectif, 5 mineurs qui dorment dehors. Et en attente, donc refusés par l'ASE, en attente d'une audience chez le juge, et rien ne se passe. Et on est quand même en hiver, quasiment. Et que donc, ces pratiques, non seulement existaient déjà à l'époque, mais là, se sont aggravées et qu'on n'a pas beaucoup de leviers pour obtenir une amélioration. Je précise qu'il y a, vous l'avez peut-être vu se passer sur vos réseaux, une proposition de loi de prévention des MNA et contre le sans-abrisme qui va être discutée dans le cadre d'une niche parlementaire le 11 décembre. Et qu'il y a une campagne d'interpellation adressée à chaque citoyen, citoyenne de nos députés.
Ouais.
Premièrement, pour qu'ils soient présents, la première chose. Et deuxièmement, pour qu'ils soutiennent quelque chose que l'humanité, le bon sens et les considérations économiques doivent amener à partager. Hein, c'est vraiment... on demande qu'en attente du jugement, de l'audience chez le juge des enfants, les enfants, les mineurs, soient mis à l'abri. C'est ce que demande cette proposition de loi. Et qu'il n'y ait pas un seul mineur à la rue, ni jeune majeur.
Voilà.
Donc, vous tapez campagne MNA, proposition de loi, et vous aurez le modèle de la lettre à adresser chacun d'entre vous à votre député.
Voilà, campagne MNA, proposition de loi. Et il faut quand même dire, enfin ça, c'est un des thèmes que l'on traite le plus souvent en ce moment, surtout que l'hiver arrive, l'hiver est même commencé à être là.
C'est beau, hein.
Voilà, donc sur 327 mineurs encore en recours, ça, c'est au 18 juin 2025, sur 3273 mineurs en recours en France, 1087 sont contraints de vivre à la rue. Sans doute d'ailleurs beaucoup plus.
Oui, et pour ceux qui ne se représentent pas bien ce que c'est,
hier,
une des camarades a reçu une photo d'un jeune qu'on a réussi à faire héberger à partir d'aujourd'hui.
Ouais.
Elle lui demande « Où es-tu » pour pouvoir l'orienter vers son hébergement.
Ouais.
Il dit « C'est à Paris, je suis sur la ligne 8 ». Bon, ben, c'est grand, la ligne 8. Et ce gamin, dont on précise qu'il est malade, qu'il a été envoyé aux urgences et sorti le vendredi soir, on ne l'a même pas, les urgences ne l'ont même pas gardé le week-end un peu... Il a 15 ans. Il envoie une photo.
Ouais.
Sur la photo, on voit un couloir de métro. Il y a trois cartons.
Ouais.
Et il dit, celui du dessous, c'est là-dessus que je dors.
Ouais.
Celui du dessus, c'est ma couverture.
Ouais.
Et le troisième, c'est pour mettre ma tête. Voilà, c'est ça, la rue. 15 ans, malade. Et en attente d'audience qui ne vient pas. Alors, on a donc rencontré Abdoulaye, c'était en, 2021.
Oui.
Et il a partagé un certain nombre d'actions qu'on illustre dans ce récit graphique. De mobilisation devant les préfectures, la préfecture de Nanterre, de mobilisation place de la Sorbonne
à Paris,
à Paris pour la journée internationale du droit des enfants, enfin de la Convention internationale des droits de l'enfant et un certain nombre d'autres actions. Et donc, dans le récit, on a rapidement le portrait de quelques autres jeunes femmes, jeunes filles et jeunes garçons qui se confrontent à ces différentes difficultés. La non-scolarisation, le rejet de la minorité, après cela, donc il y a l'épisode du confinement qui traverse un peu l'histoire, où Abdoulaye a fait partie des essentiels, donc il est allé travailler, c'était l'époque où il faisait son CAP de boulangerie, mais on parle d'une autre jeune femme qui, ayant travaillé pendant le confinement, ayant performé dans ses études et ayant entendu le président de la République, Macron, après ces épisodes, dire qu'on faciliterait l'accession à la nationalité pour ces travailleurs de première ligne, ah ben là, elle a été recalée parce qu'elle n'est pas assez intégrée. Donc, pour ceux qui connaissent, vous verrez son parcours, c'est un parcours d'excellence. Et en plus, elle était en première ligne pendant le confinement. Ben non, ça ne suffit pas. Donc il y a plein d'histoires comme ça, autres, plus rapides. Et puis, il fallait montrer, moi je crois que c'est absolument essentiel, que tout seul, on s'en sort pas. Et que c'est vraiment le collectif qui peut faire levier, ou pouvait faire levier, parce que là, j'avoue, c'est difficile de ne pas être découragé en ce moment, mais quand même, on arrive à certains résultats malgré tout. Mais c'est vraiment cette notion de collectif qui permet, qui pourra permettre aux jeunes de s'en sortir. Alors, c'est difficile de faire partager cette idée-là. Souvent, quand ils obtiennent un petit quelque chose, eh ben, ils se disent « il n'y en aura peut-être pas pour les autres, donc il vaut mieux que je me bagarre tout seul ». Mais non, ça ne marche pas. Ça marche pas.
Pour juste rebondir sur ce qu'Arna vient de dire, la dernière phrase par rapport aux jeunes, une fois qu'on obtient quelque chose, après, on ne pense plus aux autres. En fait, ça, c'est quelque chose qui doit être revu par nous qui avons déjà passé par là pour aider ceux qui sont dans cette situation et qui aider les autres aussi qui sont en route. Parce que c'est ça aussi. C'est quelque chose que j'ai toujours dit et c'est quelque chose qui m'anime tout le temps. À chaque fois que tout récemment, là, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté, qui se retrouvent dans la même situation que moi avant. Donc, il y a certains que j'ai envoyés directement voir Armel, certains au téléphone, d'autres physiquement, d'autres que j'oriente aussi, parce que pour moi, à ce que j'ai reçu, il faut que je le redonne. Parce que c'est ça aussi. Quand on t'aide, il faut aider les autres. C'est cette philosophie, c'est ce mental, moi, aujourd'hui, qui fait que je suis toujours là, derrière le réseau, avec le réseau, pour pouvoir aider les autres aussi, parce que c'est ça.
Voilà, et aujourd'hui, dans cette émission, en train de témoigner, alors que maintenant, grâce au travail du collectif, grâce à ton travail et grâce au soutien, bon, tu as fini par faire lever ton OQTF. Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps pour en parler très rapidement de
En fait, la levée de l'OQTF, parce que Armel et moi, on a travaillé franchement, et on s'est donné, elle et moi, on s'est donné vraiment toutes les possibilités.
N'oublie pas l'avocate qui.
Ouais, l'avocate, elle était là.
Quelques avocats militants, qui sont formidables.
Exactement, on n'oublie personne, mais sauf que on était là et on s'est vraiment, on a fait le combat à deux, et au final, on l'a gagné. Et c'est cet appel que aujourd'hui je peux lancer à tous ces jeunes aujourd'hui qui se retrouvent avec des OQTF. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Et l'OQTF n'est pas synonyme de retour en Guinée. C'est juste un combat qui est encore devant toi, c'est ce combat que tu as mené, ou c'est ce combat que tu as pris la décision de mener depuis que tu as pris la décision de quitter chez toi pour venir te chercher, pour venir faire de toi ce que tu veux devenir. Donc, ne rien lâcher. Toujours, toujours se dire, je peux y arriver. J'ai toujours une opportunité d'y arriver, j'ai toujours une chance. Et surtout quand tu as des personnes qui t'aident à côté, toi aussi, aide-toi.
Voilà, c'est... Et donc maintenant, avec tout ça, tu es...
Bah, l'OQTF s'est levé, j'ai été régularisé, j'ai repris notre formation dans le domaine du numérique. Je me suis marié, j'ai fondé ma petite famille avec une femme formidable du monde de Khadija, qui m'a donné un enfant, une petite fille, du nom de Hafsa Inayab. Et aujourd'hui, bah, je dirais, je continue toujours parce que le combat n'est pas fini.
Voilà, et vous êtes même retourné en Guinée.
On est retourné en Guinée pour voir la famille parce que c'est ça aussi. C'est pas parce qu'on est venu qu'il y a eu des moments où ça n'allait pas qu'on va abandonner la famille.
Voilà, c'est...
On est retourné au mois de mars en Guinée, on a vu la famille, c'était des moments vraiment inoubliables. Bah, que la famille voyait ce que tu es devenu aujourd'hui, sachant que tu es parti étant jeune, et aujourd'hui tu reviens avec une famille.
Voilà, donc un bouquin à lire absolument, hein, donc Les rêves et les combats d'Abdoulaye.
Moi, je pense que c'est important de dire qu'on va faire, un peu de pub là, on fait... L'idée, c'est aussi de faire des rencontres.
Ouais.
Et on en a quelques-unes programmées. Déjà, soit dans le cadre d'associations, par exemple à Antony au mois de janvier, ouais. Et à Versailles, je crois, en avril. Et que je pense que c'est cette notion d'échange qui est super importante. Hein. Bon, les gens sont contents de découvrir le livre, c'est bien. Mais découvrir Abdoulaye, c'est mieux.
Absolument, c'est... c'est... Bon, en plus, ce bouquin, moi, je l'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait urgemment faire une émission à propos, que tout ce qu'il dit, comment c'est dit ? Parce que quand j'ai rencontré Abdoulaye, il n'y a pas très longtemps, hein, c'était la semaine dernière... Et... Bah, j'avais presque l'impression de l'avoir déjà rencontré, quoi. C'est... Et voilà, quoi. C'est... Donc, pour se procurer ce livre, parce qu'il n'est pas tellement distribué en librairie.
Bah, c'est une auto-édition, on va dire, d'RESF. Hein. On a financé l'édition par une prévente sur une plateforme collaborative, on dit, je crois, quelque chose comme ça. Nous en sommes à la troisième réimpression.
Ouais.
Alors, quel succès, hein ? C'est pas le concours, mais on s'approche. Non, plus sérieusement, le plus simple pour le commander, et on peut vous faire les envois très rapidement, c'est de m'envoyer un mail. Mon adresse mail sera sur le site, mais pas mal de gens la trouvent. Hein. C'est armelgardien26, donc tout attaché. Armelgardien, Armel, deux L, gardien comme un ange, 26. Tout attaché, orange.fr. Le collectif a tellement de boulot que s'ils reçoivent en plus les demandes, je vais me faire lapider. Mais je précise que les bénéfices, si on arrive à en faire un petit peu, c'est totalement pour le collectif qui s'occupe des MNA hein, dans le département. Donc c'est une bonne action, c'est un moyen de participer à tous ces frais qui finissent par chiffrer. Que ce soit justement pour faire venir des papiers, soit des dépannages d'hébergement, d'alimentation, des choses comme ça, bon, tout ce que devrait faire l'État et le département et qu'ils ne font pas. Donc, je vous répète, vous m'envoyez un mail, armelgardien26@orange.fr. Si vous voulez organiser quelque chose, bon, pas trop, hein, mais un peu. on le fera bien volontiers si on peut. Je sais qu'il y a aussi une librairie à Nanterre qui envisage quelque chose. On était dans une librairie à Bagneux cette samedi dernier.
Ouais, le bazar utopique.
C'est ça. Donc, un mail où vous passez par Yves qui me transmettra, il va être content. C'est un récit, alors c'est un livre qui vaut 20 euros.
Oui.
Donc, c'est un cadeau de Noël sympathique. Je crois que les gens sont attirés par la couleur, les images, les choses comme ça, et que c'est vraiment l'occasion de découvrir, de comprendre en fait la réalité d'une vie de mineur isolé et d'un parcours aussi bien à partir du pays d'origine que dans la réalité quotidienne d'un département comme le 92, que nous ne remercierons jamais assez pour les maigres efforts qu'il consent pour ces jeunes. Département le deuxième plus riche de France et franchement très en dessous de ce qu'il devrait réaliser pour rendre un peu humain le quotidien de ces jeunes gens.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup Armel. Et puis, donc, on va pas tarder à se dire au revoir parce que ça va être très bientôt le tour des oreilles loin du front. Mais avant de passer à notre petit agenda, eh bien, je propose qu'on refasse. Alors, on va pas mettre ce que j'avais prévu de mettre parce que ce sera trop court. Mais on va juste écouter quelques notes de Alpha Yaya.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Toujours à l'écoute du RSF sur FPP, on est toujours avec Abdoulaye Bobo Ba, et on était avec Armel Gardien qui nous a quitté, qui était au téléphone, et on écoute donc Alpha Yaya par Jean-Philippe Riquel au piano et Mori Dieli Dine Kouyaté qui chante. Et donc il va maintenant être temps de se dire au revoir. Alors, deux rendez-vous. Hein, samedi 9 décembre, il y aura au CICP un hommage à Myriam Makeba, une vie au service d'un art engagé. Hein, donc, le CICP invite à son événement militant en hommage à Myriam Makeba. Donc qui est une artiste engagée et une voix incontournable des luttes de libération. C'est au CICP, 21 Terre, rue Voltaire, dans le 11e à Paris, de 15h30 à 18h30. Et vendredi 18 décembre, ce sera la journée sans nous. Si on arrête tout, on s'arrête. À l'occasion de la journée internationale des migrants, migrantes partout sur le territoire, nous appelons donc à organiser une journée sans nous. Et pour l'égalité des droits de toutes et tous, à l'école, au logement, à la santé, à la culture, au travail et bien sûr au papier. Au revoir, merci Abdoulaye.
Merci Yves.
Merci Armel, merci Léna à la réalisation. Et je vous dis, et cette émission sera rediffusée, et c'est lundi matin je crois. Et...
RESF, Réseau Éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.